Radio J, la chronique pour la paix. Paul Ouzi Meyerson, bonjour. Et Shana Tova, quand même, on peut se le dire ce matin.
Shana Tova, Shana Tova à Lise et Shana Tova à tous. Voilà, je crois qu'on n'a pas fini de se le souhaiter, c'est bien.
Ben, c'est bien, il faut, ça donne la pêche. Alors, ce matin, cher Ouzi, nous recevons Gérard Chalian qui est en ligne avec nous. Gérard Chalian est un géostratège, spécialiste des conflits armés et des relations internationales. Il suit de très près, depuis de nombreuses années, les guerres asymétriques qui opposent l'Occident aux autres systèmes politiques. Il est l'auteur de nombreux ouvrages importants et Gérard Chalian vient de publier « Des guérillas au reflux de l'Occident » édité aux éditions Passé Composé. Gérard Chalian, vous êtes avec nous ? Non, pas encore. Alors, Paul Ouzi, est-ce que vous avez lu ce livre, j'imagine ? Et pouvez-vous nous en dire quelques mots, le temps que Gérard arrive ?
C'est un très bon livre et il faut dire que j'ai une relation très particulière avec Gérard Chalian parce que moi, je suis tombé dans Israël et le sionisme quand j'étais petit, comme Obélix.
Oui.
Et
on est très nombreux à avoir fait ça.
Voilà. Et quand j'ai lu Gérard Chalian, ça s'appelait Mythe révolutionnaire du tiers-monde. Et ça a été vraiment une découverte, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'extrême gauche et de gauche, des gens qui se joignaient à la lutte des Palestiniens. Et moi, j'étais à l'université, je fréquentais un tas de gens qui étaient proches de ces milieux-là, etc. Et puis, il y a eu ce bouquin de Gérard Chalian qui expliquait, en fait, toute cette mythologie, toutes ces erreurs, tous ces errements. Et depuis, j'ai lu beaucoup de ses livres. Et la différence de Gérard Chalian avec beaucoup d'auteurs, c'est que c'est un homme de terrain et c'est un homme qui suit les luttes, qui est dans les luttes, qui a rencontré beaucoup de militants, de combattants, de pour, contre, etc. Il a suivi les méthodes. Il sait ce que c'est les conflits, la guerre, l'idéologie, pourquoi on meurt, pourquoi on se bat.
Eh bien, tout cela tombe très bien, puisque notre ami Serge, réalisateur technique, me fait signe que Gérard Chalian est avec nous. Il nous a rejoints. Bonjour.
Allô, allô, Gérard bonjour. Chalian, vous êtes avec nous ?
Oui.
Oui, oui bonjour voilà. Gérard Chalian. Alors voilà, alors j'y vais, je vous pose la première question, car nous avons pris un peu de retard. Alors, vous et moi, tout le monde a constaté, c'est difficile de faire autrement, que les Américains ont quitté l'Afghanistan et que leur départ était dans l'air depuis plusieurs années, si je ne me trompe pas, depuis Obama, en fait. Selon vous, Gérard Chalian, est-ce que les Américains s'intéressent toujours au Moyen-Orient et aux pays musulmans ? Est-ce qu'ils ont quitté l'Irak ? Ils vont peut-être quitter demain la Syrie ? Gérard Chalian, vers où les USA regardent désormais ?
Bah écoutez, vous vous souvenez qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand la guerre froide a commencé, l'enjeu, ça s'appelait l'Europe, exact ?
Oui, 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 tout à fait.
Bon. Et ensuite, aujourd'hui, l'enjeu, c'est ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique. Donc l'adversaire principal n'est plus l'URSS d'hier, c'est devenu la Chine. Alors le Moyen-Orient, bien sûr, reste important, mais il n'est pas vital comme l'ont cru les néoconservateurs au moment où, en 2002-2003, ils avaient l'intention de réformer entièrement le Grand Moyen-Orient, le restructurer et en faire quelque chose de, entre guillemets, démocratique à travers l'Irak, etc., etc. Bon, donc, tout ça est à revoir. Mais bien sûr, il reste des alliés précieux sur lesquels, localement, les États-Unis s'appuient, continueront de s'appuyer, et l'un d'eux, évidemment, est Israël.
Gérard Chalian, donc le regard des Américains se tourne vers la ligne de front, c'est plutôt Taïwan que Bagdad. Mais est-ce que ce départ des États-Unis est-ce un vrai abandon de la région ? Ou est-ce qu'ils veulent utiliser d'autres moyens pour protéger leurs intérêts ? que la politique de la canonnière au service de la démocratie. Est-ce qu'ils vont quand même garder des moyens pour empêcher le terrorisme de s'implanter en Afghanistan ?
De toute évidence, l'ère des interventions armées prolongées est terminée. C'est fini. Les Occidentaux, les Américains en premier, mais les Occidentaux d'une façon générale, ont compris que ce type de guerre irrégulière, aujourd'hui, sauf si on les gagne très rapidement, c'est l'enlisement garanti. L'enlisement garanti parce que ça devient évident aux yeux des populations que vous êtes une armée d'occupation, que même si vous n'êtes pas la seule armée d'occupation, vous êtes aussi ceux qui soutiennent un gouvernement inefficace, corrompu et impopulaire. Donc tout ça, ça compte fortement. Donc il va falloir procéder à une restructuration, c'est-à-dire qu'on va se servir beaucoup des alliés locaux, des forces de substitution, des influences, de l'aide économique, etc., etc. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, on va réexaminer les moyens de la politique qui seront moins liés à la force physique que à ce qu'on appelle le pouvoir feutré. La bonne traduction de soft power.
Soft power. Mais une fois, je vous ai entendu dire qu'en fin de compte, malgré les images et ce qu'on croit, les Américains ne sont pas vraiment battus en Afghanistan. Vous disiez qu'ils n'ont pas adopté la bonne stratégie. Ils se sont enfermés dans leur camp et ils ne sortaient pas. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas mené la bonne guerre là-bas ?
Non, ils n'ont pas mené la bonne guerre, ça c'est l'évidence, puisque le rapport Baker-Hamilton l'avait déjà dit en 2007. Et quand on a envoyé le général McChrystal, qui était un garçon sérieux et qui savait de quoi il parlait, il avait conclu, écoutez les gars, vous n'êtes pas en Afghanistan, vous êtes en transit. C'est-à-dire que vous restez essentiellement dans vos bases, 90% des soldats ne sortent jamais, par peur qu'ils perdent des soldats. Deuxièmement, parce que vous ne parlez pas la langue et que, d'une façon générale, finalement, vous n'avez aucun contact culturel avec la population que vous prétendez transformer. Donc, effectivement, oui, ça a été une guerre très mal menée, qu'on a cru, d'ailleurs, terminée dès 2002, parce que, finalement, les talibans étaient partis, ils s'étaient réfugiés dans le sanctuaire, c'est-à-dire au Pakistan. Et ainsi, en 2002, le sentiment, c'était, bon, ben, on peut s'occuper de l'Irak, qui est beaucoup plus important, et s'occuper du Moyen-Orient. Bon, ben, c'était un mauvais calcul. En somme, si on voulait résumer, on peut dire que l'Irak a été le dégât collatéral pour l'Afghanistan.
D'accord. Du coup, moi, j'ai une question. Gérard Chalian.
Il y a Lise Gutmann qui a une question.
Par conséquent, fallait-il quitter l'Afghanistan ?
Bon, il était grand temps. Engagé comme c'était, à mon avis, la guerre était perdue dès 2008. Et en 2011, c'était définitivement perdu. C'est-à-dire après l'épisode Petraeus qui avait cherché avec intelligence à pratiquer la contre-insurrection, mais trop tard. Oui, il y a 10 ans qu'il fallait être parti, minimum.
Ah oui.
Mais tout ça a été mal engagé. Oui, oui. Oui, non, il fallait partir. Là, simplement, ce qu'on peut dire, il aurait mieux valu partir avec davantage d'élégance. Je me permets de rappeler, sans aucun souci d'ordre idéologique, que quand les Soviétiques sont partis, ils sont partis en très bon ordre, fanfare en tête, que le régime qu'ils ont laissé, celui de M. Najibullah, est resté au pouvoir pendant presque 3 ans, que, à part la petite ville de Khost, aucune des villes n'est tombée entre les mains de ses adversaires, et que, de surcroît, son régime ne passait pas pour corrompu. Bon, ben, il faut rappeler ces choses-là.
Bien sûr.
D'accord, d'accord. Alors, Gérard Chalian, vous dites que les Américains vont déléguer la sécurisation du Moyen-Orient à certains de leurs alliés. Alors, évidemment, on pense à la coalition des accords d'Abraham, qui comprend, je le rappelle, hein, pour nos auditeurs, Israël, le Maroc, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, et ça, le soutien de l'Arabie saoudite et surtout de l'Égypte. Est-ce que vous voyez d'autres candidats à cette sécurisation du Moyen-Orient à la place des Américains, cette délégation?
Oui, la Turquie, par exemple. La Turquie, que ça intéresse.
Il y a un bruit derrière vous, Gérard Chalian. Il y a quelque chose là derrière vous qui...
Oui, non, on entend beaucoup de bruit, mais ça, c'est pas grave. Allez-y.
Ouais, allez-y.
Je m'excuserai, je suis dans la rue là.
Ah, d'accord. Enfin,
bon, mais en tout cas, j'essaye de me mettre là où il y a le moins de bruit possible. D'accord. Alors, en tout cas, une chose certaine, il y aura la Turquie. La Turquie qui est très contente de pouvoir y participer dans la mesure où son rôle avec l'OTAN est ambigu, mais en même temps, ça lui permet d'affirmer que bon, l'islam est important. Deuxièmement, que elle, en tant qu'État sunnite, elle est très contente aussi, en tant qu'État turcophone, d'être à deux pas de l'Asie centrale. Bon, voilà un candidat tout à fait sérieux pour sécuriser autant que faire se peut, par exemple, l'aéroport et tout cela.
Ça, c'est pour l'Afghanistan, mais en général, pour le Moyen-Orient, vous pensez aussi que la Turquie...
Alors, pour le Moyen-Orient, la Turquie est ambiguë à cet égard. Mais vous avez nommé, les participants de l'accord d'Abraham. Bah, c'est très important. C'est-à-dire que c'est la majorité, quand même, des Arabes.
Des Arabes sunnites, d'accord.
Oui, Arabes sunnites, bien sûr.
D'accord. Alors, Gérard Chalian, il y a une nouvelle conjoncture stratégique, on vient le voir. Est-ce que vous pensez qu'au Moyen-Orient, elle est favorable à une reprise des négociations de paix entre Israël et les Palestiniens, qui pourraient être encouragées par l'administration du président Biden, qui visiblement souhaite réduire les sources de conflits?
Oui, je pense qu'il y aura des velléités, mais je doute qu'on débouche quelque part. C'est-à-dire, on va beaucoup en parler, on va dire qu'on est favorable à, mais je ne pense pas qu'on va faire quelque chose de décisif.
Pourquoi ce scepticisme? Pourquoi, d'après vous, qu'est-ce qui empêcherait qu'on avance un petit peu?
L'envie d'aboutir. L'envie d'aboutir.
Vous voulez parler de l'envie de qui? L'envie du gouvernement israélien, l'envie de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne,
l'envie des
Américains.
L'envie des Israéliens d'aboutir, bon, parce que oui, dans les circonstances actuelles, c'est essentiellement aux Israéliens de faire des concessions. Moi, je pense qu'ils n'ont pas envie de faire des concessions majeures. Voilà, c'est tout.
Il y aura des petites... D'accord, mais pour des raisons stratégiques ou pour des raisons circonstancielles?
Moi, je crois pour des raisons stratégiques. Je ne pense pas qu'il y ait la place pour un deuxième État. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Mais je ne pense pas qu'il y ait la place pour un deuxième État. Les gens se rendent très, très mal compte du mouchoir de poche que représente d'une part Israël, hein, 20 000 km², plus la Cisjordanie, 5 000 km², 25 000 km². Enfin, la Belgique est plus grande, je veux dire, non, il n'y aura pas un État là-dedans avec une viabilité quelconque. En plus, il y a le problème de Hamas. Non, je pense que la situation de ce gars-là est bloquée. Il y aura des améliorations économiques, il y aura des compromis, mais enfin déboucher sur quelque chose qui s'appellerait...
Vous ne croyez pas à deux peuples, deux États?
À titre personnel, non.
D'accord. Voilà. Il y en a quand même qui croient.
Il y en a qui croient et d'autres pas. Alors, en tous les cas, merci beaucoup Gérard Chalian d'avoir été avec nous ce matin et merci à Paul Ouzi Meyerson.
Alors, bonne fête de Ticherie à tous.
Merci.
Et à bientôt.
Et à dans 15 jours,
merci,
bien
15
sûr.
Jours.
Au revoir.
Au revoir Gérard, à bientôt.
Au revoir Gérard.
Merci.
Retrouvez Radio J sur YouTube, la chaîne Radio J.